Vous écoutez
RMC.
Très belle journée à tous à l'écoute d'RMC, il est 8h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. La réponse de l'administration pénitentiaire ce matin sur RMC à la permission de sortir accordée à un narcotrafiquant de la prison de Vendin-le-Vieil, détenu qui va traverser la France aujourd'hui pour un rendez-vous professionnel sans aucune escorte policière. Les narcotrafiquants en question ce matin ont-ils gagné à Marseille? Des travailleurs sociaux, vous les entendrez, refusent de retourner sur leur lieu de travail dans un quartier gangréné par le trafic. Et puis réaction des syndicats d'enseignants ce matin au débat sur les rythmes scolaires et la proposition notamment de passer à la semaine à 5 jours pleins dès l'élémentaire, proposition de la Convention citoyenne sur le sujet.
Et donc ce matin, l'un des détenus les plus dangereux de France est dans la nature.
Un baron de la drogue de 52 ans qui purge une peine de prison pour narcotrafic et qui a même été transféré pendant l'été à la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil où sont incarcérés les criminels présentés comme les plus dangereux du pays. Et pourtant, ce détenu a obtenu une permission de sortir de la part de la justice pour se rendre à un rendez-vous professionnel dans la région lyonnaise, à l'autre bout de la France, donc dans le cadre de son droit à la réinsertion. Romain Houck pour RMC, c'est la justice qui a donné ce feu vert, alors que le parquet et l'administration pénitentiaire s'y sont opposés.
Oui, initialement, c'est le juge d'application des peines de Béthune qui a émis cette permission de sortir, dite employeur, pour lui permettre de se rendre à un entretien d'embauche. Le parquet défavorable avait fait appel, mais la cour d'appel, cette fois, a confirmé cette autorisation de sortie qui est dans les clous de ce que prévoit la législation.
Et alors, il n'y aura pas, on l'a appris également, il n'y aura pas d'escorte policière pour l'accompagner.
Non, pas d'escorte. Ce n'est pas le cadre habituel de ce type de permission de sortir, assure une source pénitentiaire. En fait, la loi narcotrafique mise en place avant l'été n'a pas prévu ce type de cas de figure. C'est ce que répond ce matin sur RMC Justine Gerbeau, porte-parole de la direction de l'administration pénitentiaire.
Cette loi n'a pas prévu de disposition particulière spécifique dans le cadre de l'application des peines.
Il y a un petit manque.
En tout cas, cette situation nous oblige à nous questionner. C'est d'ailleurs à ce titre que le garde des Sceaux, dès ce week-end, a indiqué qu'un projet de loi serait déposé en début d'année prochaine pour adapter justement ce régime spécifique.
Donc en fait, on a adapté la prise en charge
à l'extérieur, enfin en tout cas pour l'application des peines.
Alors néanmoins, ce détenu sera surveillé, a indiqué l'entourage du ministre de l'Intérieur, surveillé même de bout en bout. Un dispositif est mis en place tout au long de sa sortie, selon les informations de BFM TV. Les autorités lyonnaises ont évidemment été informées de la sortie de ce détenu particulièrement sensible, figure du narcotrafic en région parisienne, qui s'était déjà évadé de prison en 2014 à l'aide d'un commando armé.
Et alors polémique, quelques jours seulement aussi après la marche blanche contre le narcotrafic et en hommage au frère du militant antidrogue qui a été assassiné à Marseille. Où il y a d'ailleurs cette nouvelle affaire ce matin à Marseille, dans les quartiers nord de la ville. Une cinquantaine de travailleurs sociaux refusent de retourner sur leur lieu de travail à la Cité des Flamands, terrorisés par les menaces des narcotrafiquants, Lionel Dian.
Les intimidations commencent au niveau des barrages filtrants que les narcotrafiquants des Flamands ont installés à l'entrée de la cité, comme l'explique cette travailleuse sociale.
On est obligé de slalomer donc les containers et autres qui bouchent la route et on est menacé par les guetteurs quand on essaye de se frayer un chemin. On dérange le réseau en quelque sorte.
Des menaces très explicites, comme le détaille l'une de ses collègues.
Bouge, je vais te tuer, je te connais, bouge de là ou je vais t'en tirer une, dégage, ferme-la. J'ai peur pour ma vie. On demande à être protégé. Moi, j'en appelle à l'État. J'en appelle à mon département.
Des travailleurs sociaux qui ont déjà tiré plusieurs fois la sonnette d'alarme, ce qui n'a pas plu du tout aux dealers qui sont allés directement s'en prendre à leur directrice.
Il y a des gens qui sont rentrés qui lui ont dit, si vos agents continuent à faire du bruit, donc à vous parler, mon média, on va venir avec des fleurs, mais ce ne sera pas des fleurs pour la gentillesse. Donc vous comprenez le message ou pas? C'est une menace de mort là.
Des agents qui jusqu'ici n'ont pas été rassurés par les propositions du conseil départemental pour améliorer leur sécurité. Une nouvelle réunion pour tenter de trouver une solution devrait avoir lieu dans la semaine.
C'est dans la semaine et possiblement jeudi qu'Emmanuel Macron doit annoncer le nouveau service militaire pour volontaires dès 18 ans dès l'année prochaine d'une durée de 10 mois et rémunéré à hauteur de plusieurs centaines d'euros avec l'objectif de recruter de 10 à 50 000 jeunes par an donc pour les rangs de l'armée dans le contexte de la guerre en Ukraine avec les pourparlers qui sont jugés constructifs entre Américains et Ukrainiens qui ont discuté toute la journée d'hier en Suisse du plan de paix proposé par les Américains. L'avancée de la soirée, c'est que ce plan, nous dit-on, respecterait la souveraineté de l'Ukraine. Il y a ce matin le débat sur les rythmes scolaires. Il est relancé avec les 20 propositions que vient de rendre la Convention citoyenne qui planchait sur le sujet depuis le printemps, précisément sur le rythme des enfants. La principale idée, c'est donc de repasser à la semaine à 5 jours dès l'élémentaire, 5 au lieu de 4 ou 4,5 par endroit, pour alléger les journées et mieux étaler les temps d'apprentissage. Proposition qui rappelle grandement, souvenez-vous, la réforme de 2013 sous François Hollande, réforme qui avait fini par être abandonnée, comme le rappelle ce matin sur RMC Aurélie Gagné du syndicat d'enseignants NUIPP-FSU.
On y est revenu parce que ça ne fonctionnait pas, ça n'améliorait pas l'école en général, ça ne réduisait pas les inégalités, ça faisait des élèves fatigués, des enseignants épuisés. Les enseignants n'en peuvent plus, les conditions de travail ne sont pas bonnes. C'est un métier qui ne va pas très bien. On ne peut pas améliorer l'état de l'école en étalant les heures d'enseignement sur les 5 jours. Ça ne marchera pas et les enseignants ne suivront pas. Donc, en l'état, c'est non.
Alors, une autre proposition, on parle bien de proposition, on ne sait pas encore si ce sera repris, c'est de passer de 3 à 2 zones de vacances scolaires pour faciliter en fait la vie des familles recomposées, mais en conservant quand même les 16 semaines, le total de 16 semaines de vacances à l'année. Appel à la prudence ce matin en Gironde, en Dordogne et en Corrèze, dans les 3 départements placés en vigilance orange pour pluie et inondation. Il y a le risque que ça déborde avec l'équivalent de 3 semaines de précipitations attendues d'ici demain. Le foot, c'est Lille qui revient à la 4e place de la Ligue 1 ce matin à l'issue de la 13e journée grâce à sa victoire 4 buts à 2 hier soir, c'était contre le Paris FC avec un doublé d'Olivier Giroud. Et puis l'heure est au bilan pour les Bleus du rugby qui ont bouclé leur tournée d'automne par une victoire samedi contre l'Australie, mais qui laisse quand même une impression mitigée et qu'on espère revoir un petit peu plus en forme dans 2 mois pour le tournoi Destination, Wilfried Templier.
Oui, si les Bleus ont mieux fini et passé 7 essais aux Australiens grâce à des funambules comme Bielbiaré ou deux porteurs, on n'oubliera pas que leur défense et leur discipline ont été des points faibles en novembre. Le capitaine Grégory Aldrit en est conscient.
Il y a trop de fautes. On sait que les matchs de tournoi, ça peut se jouer à moins de 3 points. Donc ça va être à nous individuellement, chacun, de travailler dur pour progresser dans ce domaine et être plus performant défensivement.
Et maintenant, un autre combat va aussi se mener sur les routes de la prochaine Coupe du Monde. Une négociation entre la fédération et les clubs professionnels pour la mise à disposition des joueurs. Et depuis des semaines, le sélectionneur Fabien Galthié multiplie les signaux et se plaint du manque de temps pour travailler avec son groupe, citant les autres nations en comparaison.
Nous, on fait, on va dire, 8 matchs en novembre et durant les 6 nations avec la meilleure équipe possible. Les Australiens auront joué 16 matchs. Toutes les nations jouent des matchs de plus. On a 8 semaines avant de retrouver les joueurs. Ils partent sur 8 semaines de compétition en club. Alors que les Irlandais, eux, ils vont bien se préparer pour l'ouverture du tournoi.
Le combat promet d'être également âpre en coulisses. Sur le terrain, les Bleus retrouveront les Irlandais le 5 février prochain au Stade de France pour l'ouverture du tournoi Destination.
Ouverture du tournoi Destination exceptionnellement un jeudi pour ne pas tomber en même temps que la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques qui aura lieu le lendemain.
C'était le journal de Quentin Vinet, 8h08. C'est l'heure de parler économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Bonjour Emmanuel Le Chypre.
Bonjour
Emmanuel, Apolline. Travailler 7, 8, 9 ou 10 jours consécutifs, est-ce que c'est légal?
Alors, combien de jours effectivement est-il légal de travailler de suite sans bénéficier du moindre jour de repos? C'est un sujet qui a suscité de nombreux litiges déjà entre salariés et employeurs, dont celui qu'avait à trancher la Cour de cassation vendredi, le cas d'un commercial que son entreprise a fait plusieurs fois travailler 11 jours, voire 12 jours consécutifs. Il avait fait valoir son droit au repos hebdomadaire au prud'homme. Eh bien, la juridiction la plus élevée de l'ordre judiciaire a décidé de donner raison à l'entreprise.
À l'entreprise, et c'était à l'occasion, il faut le préciser, de salons professionnels qui s'enchaînaient les uns les autres. Comment la Cour de cassation a justifié sa décision?
Alors, pour elle, tout dépend de la notion qu'on donne à repos hebdomadaire. Le Code du travail dit qu'un salarié doit bénéficier d'au moins un jour de repos par semaine, ce qui est la plupart du temps interprété comme 6 jours de travail, un jour de repos, 6 jours de travail, un jour de repos. Or, la Cour de cassation nous dit qu'une semaine, ça n'est pas 7 jours qui se suivent, c'est une période qui va du lundi au vendredi. Autrement dit, un salarié peut travailler du mardi de la première semaine au samedi de la semaine suivante, ça fait 12 jours d'affilée, puisqu'il a bien eu un jour de repos dans chaque semaine civile,
par exemple, lundi.
Le lundi, et puis le dimanche de la semaine d'après. Donc entre les deux, on peut travailler
12 jours d'affilée. Les entreprises, elles obtiennent un peu plus de souplesse, et c'est en contrepartie du faible temps de travail des Français,
oui,
c'est
exactement,
ça l'idée.
Hein, la France est le pays dans lequel le nombre d'heures travaillées par habitant est le plus faible de tous les grands pays, c'est 666 heures par habitant, nous dit l'OCDE. c'est 776 dans l'Union européenne, c'est quasiment 3 semaines de travail en moins en France. Donc oui, les Français doivent collectivement travailler plus, sauf que toutes les tentatives légales échouent. Regardez, les sénateurs, ils ont voté samedi une augmentation de la durée annuelle du travail de 12 heures supplémentaires, 15 minutes, par semaine. Mais cette proposition n'a aucune chance de survivre au circuit parlementaire, comme les deux jours fériés de François Bayrou.
Comme tout ce qu'il y a dans ce budget.
Oui, comme tout ce qu'il y a dans ce budget. Reste à essayer de faire travailler davantage de Français, plutôt que de faire travailler davantage les Français qui ont déjà en boulot. Ça, c'était le but de la réforme des retraites, mais qui est, elle aussi, un peu fragilisée aujourd'hui.
Ça fonctionne pas très bien, hein, ce budget, on le sent bien.
Travailler moins,
on verra à la fin. Merci, Emmanuel. I'm
free. Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
À suivre sur RMC, Arnaud Demange qui va venir nous rejoindre. Ensuite, il y aura le face-à-face. C'est le coordinateur de la France Insoumise, Manuel Bompard, qui sera mon invité à 8h30. Et puis juste après le face-à-face, comme tous les matins, ce sera face à Canteloup à 8h50. Pour l'heure, il est 8h10, à tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Et tous les jours de manche.
Arnaud Demange qui nous rejoint à 8h14, qui court dans ce studio. Tellement il est heureux de nous retrouver. Salut Arnaud.
Ça va, c'était bien ce week-end sous la neige. Oui. Vous avez kiffé, il a neigé. Ouais. Du coup, on a tous eu un petit mot du boomer de la famille dans le groupe WhatsApp.
Alors, le réchauffement climatique.
Le boomer climato-sceptique, dès qu'il y a un flocon, en fait, c'est sa quinte flush. Pour c'est les scientifiques du GIEC, c'était super beau. Allez, l'actu. Nicolas Sarkozy, quand même, qui publiera son nouveau livre, Le journal d'un prisonnier. Le 10 décembre, ça parlera de son expérience en prison. Seulement 21 jours en prison et déjà un livre, hein, dans ton cul, Boualem Sansal. Voilà. Boualem Sansal, 1 an en cabane, toujours pas de livre annoncé. Et ça se dit écrivain. Bravo, 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 Boualem, bravo. Donc 3 semaines à manger des yaourts et à boire de l'eau. En fait, il a expérimenté ce que font toutes les femmes au mois de mai quand elles savent qu'elles vont bientôt devoir remettre un maillot de bain. C'est pas un livre qu'il aurait dû faire, c'est un article dans Biba. 3 semaines comme expérience, c'est tout petit. C'est un rapport de stage, en fait, son truc. Moi, j'ai passé 3 semaines au Loukéa de Djerba en 2013. J'ai pas écrit journal d'un bédouin. 3 semaines, c'est vraiment pas beaucoup. Alors, ça sort le 10 décembre et c'est le cadeau de Noël idéal pour les petits comme pour les grands.
Les éditions Fayard présentent une épopée dramatique. La résilience d'un homme enfermé dans les geôles d'un dictateur centriste pendant 20 jours et ne se nourrissant que de bifidus actifs. Extrait. Lundi, 7h du matin, 3e jour de captivité. Je me lève pour prendre mon petit déjeuner, car en prison, on se lève tous pour Danette.
Ça n'a aucun sens.
Je vais avoir des sous avec ça. Mon regard ne rencontre que les murs froids de la prison. J'aimerais tant voir l'extérieur. Heureusement, j'ai emporté 3 livres. Du coup, je peux faire une pile avec et monter dessus pour regarder par la fenêtre. J'ai reçu une lettre de Nadine Morano. C'est gentil de sa part. Même si m'envoyer des photos d'elle en guêpière pour me faire tenir n'est pas l'idée du siècle. C'est une adaptation qui va aussi connaître l'adaptation en film déjà prévue par Canal+, avec dans le rôle de Sarkozy Tom Cruise et Pierre Ninet dans le rôle du yaourt 0%. Richard Berry dans le rôle du Sveltes. En tout cas, les critiques sont bonnes. J'ai lu celle de Mediapart qui a eu les bonnes feuilles. Ils ont dit vivement le tome 2. Ils sont déjà motivés.
Rachida Dati s'est mise en scène avec les éboueurs de Paris dans une vidéo de campagne.
Vous l'avez vu la vidéo?
Ah oui.
Elle est rigolote quand même. Donc allez la regarder, on va se régaler pendant les municipales. Donc on la voit ramasser les déchets à l'arrière du camion. T'imagines la tête des éboueurs quand ils ont vu arriver Rachida Dati pour leur filer un coup de main à 5h du mat, qui a dû faire hey les gars, j'arrive, je te... Ouf, c'est dur votre boulot, hein. Ça pue, on dirait une réunion de la CGT spectacle. Ça sent l'intermittent ici, hein. On se croirait dans la régie RMC.
Hey, un peu d'humour les gars, ça vous fera pas de mal. Lumière.
Elle a dû en profiter pour jeter ses dossiers gênants à elle. Bon, les gars, ça vous dérange pas si on passe à côté de chez moi? J'ai des vieilles factures et des vieux contrats qu'il faut pas qu'on trouve. Et alors après sa tournée, Rachida Dati est passée dans les immeubles pour demander des étrennes. Bonjour les pauvres, je viens pour les étrennes des éboueurs, alors je prends l'argent liquide, les bijoux, l'immobilier, tableau de valeur, contrat de lobbying à 500 000 euros.
Oui, mais vous savez, avec ma petite retraite,
vous pouvez certainement faire quelque chose. Tenez votre appart, il est moche, mais je le prends en viager quand même. Allez, en cadeau, les calendriers des mecs des poubelles, c'est pour moi, joyeux Noël.
L'Assemblée nationale, Arnaud, a rejeté le budget à quasiment l'unanimité.
Oui, quasiment, pourquoi ?
Parce qu'il y en a un
qui a voté, un seul sur 577, et il s'appelle Harold Huart, député Lyotte d'Eure-et-Loire. Harold Huart, ça fait nom de personnage d'Harry Potter, Harold Huart. Très joli prénom, Harold.
Oui, bien sûr.
Magnifique. Et Harold, très joli prénom, il a dit, tout le monde critique le budget, mais moi j'aime bien, j'ai voté. C'est ça doit être la personne la moins difficile de France. Au foot, je pense qu'il est supporter du FC Metz. Là, non, mais ça joue pas si mal que ça, moi j'aime bien, j'ai dit oui. Il passe ses vacances à Roubaix. On critique, mais c'est joli,
non,
Roubaix,
oui, moi j'aime bien.
Je suis allé faire du shopping au magasin Chine, voilà, c'était chouette. Et après, je suis allé manger à la pataterie, sur la zone commerciale. Entre là, l'eau vêtements et le Noroto.
C'est bien ce budget,
critique,
non mais c'est bien
plus
ce
joli
budget.
Que ce qu'on dit, c'est joli. Harold, quand il fait l'amour à une conquête Tinder, il est toujours content. Il a oui, mais j'ai bien aimé. Pas tous les Harold. Celui-là, Harold Huart. Il dit non, mais j'ai bien aimé son parfum. Elle m'a un peu rappelé une soirée raclette qu'on avait faite avec des amis à Grenoble.
Des bons souvenirs.
Je préfère être avec une femme comme ça parce que je sais qu'on me la piquera pas. Voilà. C'est Harold Huart. Hein, c'est celui-là. Ouais. Ne passons pas à côté des choses simple avec Harold Huart.
C'est lui qui a voté le budget.
Celui
qui a tout jamais restera l'homme qui avait voté le budget. À demain, Arnaud. Il est 8h19 sur RMC et RMC Story. On va partir au standard. Il y a Dominique qui nous appelle de Montigny-les-Cormeilles en Val d'Oise. Bonjour Dominique.
Bonjour Apolline.
Comment ça va Dominique? Vous vouliez réagir à ce détenu qui est donc dans la nature. Là, il est 8h20, j'imagine qu'il est sorti. Pour un entretien d'embauche, il est l'un des plus dangereux de France et il est dans la nature.
Alors, l'entretien d'embauche, j'espère qu'on a vérifié la véracité de l'embauche. C'est peut-être pour gérer un nouveau point de deal. Lui confier un nouveau point de deal. Là, je crois qu'on marche sur la tête. On n'a pas retenu aucune leçon du passé, notamment l'affaire Amra, par exemple. Et là, vraiment, mais pourquoi pas une visioconférence? Je veux dire, déjà, on va mettre des moyens en place, de l'argent, pour aller déplacer ce détenu, prendre tous les risques. Et il y a des familles qui, peut-être, vont pleurer en cas d'homicide. Et on va nous expliquer que la loi a été respectée. Non, il y en a marre, là. Franchement, il y en a marre. Là, on marche sur la tête, là.
Et comme vous le dites, effectivement, et vous évoquiez la tragique évasion de Mohamed Amra, à l'époque, ce que le service pénitentiaire avait proposé, c'était une visio pour une rencontre avec le juge. Mais, en effet, le juge d'application, lui, en avait décidé autrement. Et là, pareil, Dominique, vous avez raison. Vous êtes chef d'entreprise, vous faites des visios, vous, pour embaucher, peut-être, de temps en temps?
Alors, moi, j'embauche plus, en fait. Je suis à la retraite, mais je travaille 2 jours et demi par semaine. Mais, ceci étant, j'étais chef d'entreprise. Et oui, j'ai fait des visios parce que d'abord, ça coûte moins cher, c'est plus rapide. Et il n'y a pas besoin de voir les gens nécessairement.
Et il n'y avait pas besoin de traverser toute la France, parce que Vendin-le-Vieil, quasiment à la frontière de la Belgique, jusqu'en région lyonnaise pour l'entretien d'embauche, ça veut dire que le détenu en question, au moment où on se parle, il est peut-être dans le TGV. Merci en tout cas à Dominique d'être intervenu.
Tiens. RMC vous offre 120 000 euros.
Vous l'avez entendu, c'est l'alerte et c'est le tout dernier jour pour les gagner. C'est 120 000 euros, 100 000 euros pour vous, 20 000 euros pour la personne de votre choix. Si quand on l'appelle, elle dit qu'elle écoute RMC et tout ça, c'est net d'impôts. Vous avez 10 minutes, tout pile, il est 8h22, 10 minutes pour vous inscrire. C'est la dernière fois que ça vous arrive. 10 minutes pour vous inscrire et pour envoyer RMC au 7-32-16, 120 000 euros à la clé. RMC au 7-32-16, il est 8h22, vous avez donc jusqu'à 8h32 pour jouer et vous inscrire et gagner les 120 000 euros. Dans un instant, c'est le face-à-face. Mon invité, c'est Manuel Bompard, le patron de la France Insoumise. Ce fameux budget, 125 heures de débat. Et tout ça pour rien, puisque ce budget a été rejeté et qu'on repart à zéro. Franchement, est-ce qu'il ne faut pas revoter? Appelez à la dissolution, je lui pose la question dans un instant. Il est 8h22.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 sur RMC et BFM TV. Bonjour Manuel Bompard.
Bonjour.
Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes le coordinateur de la France Insoumise. Vous êtes vous-même député LFI des Bouches-du-Rhône. Le budget qui repart à zéro quasiment et puis qui de toute façon a très peu de chances d'être adopté. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je vous pose la question dans un instant, mais je voudrais d'abord vous interroger. Il est 8h29 au moment où on se parle. Vraisemblablement, se trouve dans la nature l'un des détenus considérés comme les plus dangereux de France. Ils sont 100 à avoir été placés dans la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vielle. Le chef d'établissement avait dit non pour cette autorisation de sortir. Le parquet avait dit non. Et pourtant, le juge d'application des peines a accordé cette permission de sortir. Il va traverser la France sans escorte, avec un dispositif finalement décidé, semble-t-il, un peu à la dernière minute et en totale liberté. Est-ce que vous estimez que c'est normal?
Écoutez, je comprends qu'on puisse se poser la question. Évidemment, puisqu'on a dit c'est l'un des détenus les plus dangereux de France. Après, vous l'avez dit vous-même, il n'y a pas seulement un juge d'ailleurs, il y a deux juges qui ont considéré qu'on devait travailler les conditions de sa réinsertion, puisque sa peine, elle va expirer un jour, il n'est pas condamné à vie, et que je pense que c'est légitime de se poser la question de savoir comment on travaille pour que la réinsertion, elle se fasse dans les meilleures conditions. Et je crois que je comprends que les gens puissent se poser des questions, mais je pense qu'ils peuvent comprendre qu'on a plutôt intérêt que quand un détenu est libéré, eh ben, on fasse en sorte qu'il soit pas tout seul dans la nature, précisément, et qu'on ait créé les conditions pour qu'il puisse avoir
un
retour dans la société, qu'il soit dans les meilleures conditions.
Choses différemment. Est-ce que cette décision est encore en adéquation, un, avec la création de cette prison de haute sécurité? C'est-à-dire, le contraste va être assez saisissant. Dans la prison, il est sous haute surveillance 24 heures sur 24, il n'a pas le droit à un téléphone portable, et là, toute la journée, il peut utiliser le téléphone de sa femme, passer tous les coups de fil qu'il veut, se promener dans le TGV et être au milieu des gens.
Écoutez, après, franchement, je pense qu'il ne faut pas non plus faire croire que parce que cette personne, aujourd'hui, va pouvoir faire, si j'ai bien compris,
un entretien d'embauche dans la région lyonnaise,
qu'il va pouvoir faire ce qu'il veut et qu'il va y avoir personne qui le surveille, etc. Ça, c'est pas vrai.
Il n'aura pas d'escorte à proprement parler. Il n'y aura personne autour de lui officiellement.
D'accord, mais vous savez, y compris dans des prisons qui ne sont pas dites prisons haute sécurité, par exemple, les conversations téléphoniques, elles sont surveillées. Donc, ne faisons pas croire aux gens qu'il va pouvoir passer des consignes, je ne sais quoi.
Vous espérez qu'il est quand même surveillé?
Mais évidemment, je le souhaite. Et je crois que, sincèrement, c'est le cas. Maintenant, il y a une procédure judiciaire. Elle a été respectée à la lettre. Et encore une fois, je sais que l'idée qu'on veut faire paraître, c'est que finalement, il faudrait que les gens soient en prison tout le temps. Bah non, mais les gens, ils ont une peine avec une durée, j'entends, dans le débat public. Et le principe de la prison, c'est quand même de travailler les conditions d'une réinsertion, de faire en sorte que les gens, quand ils sortent, ils ne recommencent pas. Et pour qu'ils ne recommencent pas, il faut travailler pour que cette réinsertion permette, par exemple, aux gens d'avoir un emploi.
La question de la cohérence, c'est-à-dire que, par exemple, la plupart des entretiens d'embauche maintenant peuvent aussi se faire en visio.
C'est vrai, on aurait peut-être pu imaginer un processus de cette nature. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas été imaginé comme tel. Maintenant, la question de la cohérence, pardon, mais c'est pas à moi qu'il faut poser cette question, parce que depuis le début, la force politique que je représente, on a dit que c'est cette idée que ces prisons haute sécurité seraient la solution, y compris au problème de la criminalité organisée. C'est une idée qu'on a battue en brèche. D'abord parce que dans les prisons actuelles, même quand elles sont pas haute sécurité, les gens ne font pas ce qu'ils veulent. Deuxièmement, parce que ces prisons de haute sécurité, ça a existé en France jusqu'aux années 80, et que dans les années 80, on a précisément considéré que ce n'était pas efficace parce que ça ne se traduisait pas par un effet positif sur la question de la récidive et de la réitération des faits. Donc là, il y a effectivement une absence de cohérence, mais ça, c'est à M. Darmanin qu'il faut poser la question.
Il dit d'ailleurs lui-même, il reconnaît qu'il y a un trou dans la raquette et qu'il faudra peut-être faire évoluer la loi sur cette
partie-là.
Oui,
mais M. Darmanin, là, chez lui, la démagogie n'a pas de limite. C'est-à-dire que dès qu'il y a un sujet, il nous explique que la solution, c'est une proposition de loi. Moi, je pense qu'il devrait faire un peu moins de grandes phrases et de grandes paroles et un peu plus d'actes concrets, y compris dans la lutte contre la criminalité organisée, vu les drames qu'on a encore vus ces derniers jours.
Vous étiez d'ailleurs un samedi à la marche blanche à la mémoire du frère d'Amine Kessassi. Vous êtes réjoui du fait qu'il y ait beaucoup de monde. Vous estimez que les gens étaient au rendez-vous, que la France est au rendez-vous?
J'estime qu'il y avait la population marseillaise qui a été très ému et à juste titre, et je partage cette émotion et je trouve que c'était important que tout le monde soit là. Maintenant, moi, je veux dire que vous savez, en tant que député de Marseille, malheureusement, des marches après des drames liés à la criminalité organisée, j'en ai fait depuis 2 ans, 3 ans, sans doute une dizaine. Et donc, j'espère que ça sera pas juste un moment médiatique avec tout le monde qui se déplace.
Mais d'ailleurs, vous dites tout le monde qui se déplace. Alors oui, il y avait beaucoup de politiques.
Mais moi, je reste assez surprise. Il était où, Jules, par exemple? Il était où, Soprano? Ils étaient où?
Bah, je sais pas où ils étaient. Peut-être qu'ils étaient là. Qu'est-ce que vous en savez? Moi, vous savez.
Vous pensez qu'ils l'auraient pas dit? Vous les avez vus, vous, en tout cas, vous étiez?
Rien, mais moi, je vais vous dire, j'étais là. Et j'ai considéré, d'ailleurs, que la présence, elle nécessitait pas forcément d'en faire des tonnes sur les réseaux sociaux. Parce qu'il me semble que c'était d'abord
un moment. Il y a eu une forme de récupération, d'après vous?
Franchement, je pense qu'il y a quelques règles à fixer dans le débat politique. La première, c'est qu'on évite de faire des polémiques sur des drames. Donc, c'est pas moi qui vais en faire. Mais moi, j'ai considéré, par exemple, et j'étais avec mon collègue Sébastien Delogu, que notre présence, elle était au milieu des Marseillaises et des Marseillais. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que on en a fait beaucoup des marches aussi dramatiques. Et bien souvent, les ministres viennent et ils font des annonces. Et puis, quand ils rentrent à Paris, bah, les annonces, elles partent avec eux. Donc, moi, j'espère que ça va pas juste être un moment. Et que dans 10 jours, en quelque sorte, la vie va reprendre son cours avec les mêmes drames qui vont se poursuivre.
Mais je vous pose quand même la question. Jules, Redouane Bourguignon-Abba, Soprano, des grandes personnalités très écoutées à Marseille. Moi, je les ai pas vues.
Bah,
je crois pas que vous les ayez vues.
Posez-leur
non plus.
La question.
Je leur poserai évidemment la question, mais vous trouvez pas que ça aurait été leur rôle? Ça aurait été leur rôle d'être là?
Je vous ai dit, moi, j'ai pas envie de faire de polémique avec qui que ce soit, et je pense que certains ont réagi, certains, par ailleurs, ont pu prendre la parole et ne pas forcément être présents à cette marche, mais on a besoin, là où je vous rejoins peut-être dans votre question, on a besoin d'une mobilisation de la société dans toutes ses composantes contre ce drame de la criminalité organisée. On a besoin aussi d'un changement de doctrine politique, parce que ça fait depuis des mois et des mois qu'on dit qu'on va faire des choses et qu'on ne les fait pas. Donc, où sont les effectifs supplémentaires dans la police judiciaire quand vous savez aujourd'hui que vous avez des départements dans lesquels chaque enquêteur de la police judiciaire a 200 à 300 dossiers sur son bureau? Où sont les greffiers? Où sont les éducateurs spécialisés dans nos quartiers populaires? Où sont les effectifs pour la police, la protection de la jeunesse? Où sont les moyens mis dans la prévention pour faire en sorte que les gens ne tombent pas dans les trafics de drogue?
On est bien d'accord que votre candidat à Grenoble a dit ce week-end qu'il n'était pas là pour traquer les dealers, qu'il ne voulait pas traquer les dealers et qu'il ne voulait pas armer la police.
Mais c'est pas le rôle de la police municipale, madame, de traquer les dealers. C'est le rôle de la police nationale. C'est pas le rôle de la police municipale de remonter les réseaux de la criminalité organisée. C'est le rôle de la police judiciaire qui a été très largement démantelée ces dernières années par la réforme de la
police judiciaire. Mais quand on est candidat à Grenoble, ça fait peut-être partie quand même... Non?
Mais vous savez, les compétences de la police municipale, c'est faire de la tranquillité publique. Sauf si vous êtes en train de m'expliquer que c'est
pour vous,
la police municipale
pour vous,
qui va chasser les réseaux de la criminalité
organisée.
Pour vous,
il n'est pas souhaitable que la police municipale de Grenoble soit armée.
Mais attendez, après on parlera de la question de l'armement si vous voulez, mais là on parlait des réseaux de la criminalité organisée. Ce sont des réseaux qui sont des réseaux nationaux, voire internationaux. Vous n'allez pas me faire croire, madame de Malherbe, que c'est la police municipale de Grenoble qui va lutter contre les réseaux de la criminalité organisée.
Non.
Ça c'est la première chose.
Non, ça on est bien d'accord. Mais en revanche, le maire a le pouvoir de décider que sa police municipale est armée ou non.
Vous avez raison, et moi je défends avec la France Insoumise l'idée que les armes, elles doivent être réservées à la police nationale, et que la police municipale, elle doit avoir un travail, elle doit être redéployée sous forme de police de proximité, elle doit avoir un travail de tranquillité publique, un travail de médiation, et je le fais pas par, contrairement à ce que j'entends dans le débat public, par laxisme, je le fais par efficacité. Il faut que ce rôle-là de lutter contre les réseaux de la criminalité organisée, il soit fait avec des effectifs dont le travail est de remonter des réseaux. Et c'est là où je vous parle d'un changement de doctrine nécessaire. Arrêtons de faire croire qu'on va attaquer ces réseaux-là en chassant le bas du spectre. Il faut attaquer le haut du panier. Et pour attaquer le haut du panier, il faut mettre les moyens dans les effectifs qui attaquent le haut du panier.
Vous avez vu sûrement cette vidéo qui tourne sur les réseaux. J'imagine qu'elle a dû être tournée au printemps, où on voit Rima Hassan et Sébastien Delogu qui répondent à un passant à Marseille qui fait un selfie avec eux et qui leur dit, il est à qui ce pays, il est à qui Marseille, on représente qui? Et Sébastien Delogu qui répond en riant, à la DZ.
Mais franchement, vous savez ce que ça voulait dire, la DZ, dans cette expression? Ça veut pas être, ça n'a rien à voir avec la DZ mafia. Franchement, faites attention s'il vous plaît, à pas faire des...
Non, parce qu'à chaque fois, on nous dit que c'est de l'humour. Moi, je veux bien, ça n'a rien à voir.
La DZ, ça veut dire autre chose. Enfin, on va pas rentrer dans le détail, mais...
Allez-y, la DZ, non, ça veut dire l'Algérie.
Non, attendez, oui, mais donc, ça n'a rien à voir avec la DZ mafia, ça n'a rien à voir avec les réseaux de la criminalité organisée. Donc, s'il vous plaît, franchement,
non, mais c'est une autre question,
sujet.
D'ailleurs. C'est une autre question.
Bah oui, mais vous me la posez en même temps, donc je me permets de vous dire...
Ah non, c'est pas une autre question que les municipales.
Soyons un petit peu vigilants, si vous voulez bien. Soyons un petit peu vigilants. Maintenant, moi, je veux bien recevoir des leçons sur la lutte contre la criminalité organisée, mais pour l'instant, l'instant, ceux qui sont au pouvoir depuis des années et des années sont aussi comptables de la situation actuelle. Donc pardonnez-moi.
Mais que ce soit la DZ si mafia ou la DZ tout court, ça vous paraît normal quand on demande à quelqu'un.
Sur les réseaux sociaux et qui sont des vidéos privées ou personnelles. Franchement, c'est pas comme ça que je fais de la politique. Moi, je fais de la politique avec des propositions politiques. Et on est face à un fléau qui est celui de la criminalité.
Oui, mais ça me frappe quand même, Manuel Bompard, qu'à chaque fois qu'on pose ce genre de questions, j'ai vu qu'il y a deux jours, Éric Coquerel était interrogé sur les remarques homophobes de Sophia Chikirou sur les tafioles de merde, et il a répondu que c'était de l'humour. Vous avez beaucoup d'humour.
Non, mais c'est pas de l'humour et c'est pas drôle. Mais en l'occurrence, c'était un message privé, si j'ai bien compris. Je ne sais même pas si
donc on a le droit de penser ça à titre privé, mais par contre, on ne doit pas le dire en public.
Non, je pense qu'elle ne pense pas à ça à titre privé. Mais franchement, Apolline de Malherbe, vous pouvez me faire la série, si vous voulez, des messages volés, des messages privés, si c'est votre manière de faire de la politique. Mais pardon,
non.
Moi, je considère que notre pays aujourd'hui, il est confronté à des difficultés majeures, et je me permets d'imaginer une vision de la politique dans laquelle on peut essayer d'y apporter des réponses. On n'est pas tous d'accord.
J'adorerais.
Moi, c'est ce que je fais.
J'adorerais.
C'est ce que j'essaye de faire.
On va y passer au budget, mais j'en profite, vous savez quoi?
Que je trouve assez ridicule.
Je préférerais poser cette question directement à Sophia Chikirou. Mais il se trouve que vous aurez peut-être remarqué qu'elle n'a répondu à aucune interview en direct depuis des années.
C'est clair que si votre volonté, c'est de l'inviter pour lui poser des questions sur des messages privés.
Et j'aurais plein de questions à lui poser. Et je pense que tous mes confrères aussi, elle n'a répondu à aucune question.
Je pense que ce serait peut-être mieux de lui poser des questions sur ce qu'elle aspire à faire pour Paris.
Aucune interview.
Et à ce que nous, on aspire à faire aux élections municipales.
Mais avant,
peut-être que ça vous intéresse.
D'être candidate au municipal, c'était pareil. Aucune interview.
Elle fait ce qu'elle veut, non?
C'est ça votre vision de la démocratie et de l'échange.
Je suis en face de vous, Apolline de Malherbe.
Oui, mais Sophia Chikirou, elle est quand même candidate pour la mairie de Paris.
J'ai l'impression que vous êtes déçu que ce soit moi et pas Sophia Chikirou.
Je suis ravie de vous recevoir, Manuel Bompard, comme à chaque fois.
Mais
n'hésitez pas à le lui dire, en tout cas. Je trouverais normal, effectivement, qu'il y ait des échanges démocratiques.
Madame Apolline de Malherbe, les échanges démocratiques, ils se font à travers des élections, ils se font à travers des campagnes, ils se font à travers des contacts avec les citoyennes et les citoyens. Et ensuite, certains répondent à des interviews, d'autres préfère avoir une autre forme de débat avec directement les citoyennes et les citoyens. Ne vous inquiétez pas, Sophia Chikirou, elle aura des réunions publiques, elle aura des meetings, elle fait des conférences de presse, elle en a d'ailleurs fait une pour présenter sa campagne, et vos journalistes de BFM y étaient et ont pu lui poser toutes les questions qu'ils voulaient
lui
poser.
Mais qu'elle n'hésite pas en tout cas, des questions en direct sur des plateaux
télévision. Vous avez très envie de la recevoir, et je lui passerai donc le message que vous avez très envie de la recevoir.
N'hésitez
Maintenant,
pas.
Je pense que si vous la recevez, j'espère que vous la recevrez pour parler plutôt de son programme plutôt que des polémiques qui sont quand même assez ridicules.
Je pense qu'elle ne me demandera pas la liste des questions avant.
Mais est-ce que moi, je vous demande la liste des questions avant?
Et si vous l'aviez fait, vous saviez bien que j'aurais jamais accepté.
Je réponds à vos questions, mais j'ai le droit de considérer que quand vous invitez un responsable politique ou un parlementaire, c'est plutôt pour discuter avec lui des propositions qu'il a à faire pour le pays que des polémiques.
Le budget,
c'est ridicule.
Personne n'en veut.
Ça, c'est
clair. A été rejeté à la quasi-unanimité. Il y a un député qui a voté pour le volet recettes. Maintenant, on fait quoi?
Ben, on base budget définitivement. 404 voix contre le budget, une voix pour. C'est la preuve que personne ne veut effectivement de ce budget. Et pour cause, c'est un budget qui est un budget de maltraitance sociale absolue. Ce serait un désastre économique. Ça va plonger le pays dans une récession économique dont il aura beaucoup de mal à se remettre. C'est un budget d'irresponsabilité écologique. Aujourd'hui, malheureusement, la COP a donné des résultats désastreux, mais tout le monde sait que le grand défi du siècle, c'est la transition écologique, et on ne fait rien sur ce sujet. Ce sujet n'existe même pas.
Est-ce qu'il vaut mieux pas de budget? Est-ce qu'il vaut mieux pas de budget?
Qu'un mauvais budget, oui.
Qu'un mauvais budget.
Il y aura pas de budget, puisque si à la fin on bat ce budget, il y aura à minima ce qu'on appelle une loi spéciale, et cette loi spéciale, elle permettra, pour l'année prochaine, d'avoir les mêmes lignes budgétaires que le budget de l'année dernière, jusqu'à ce qu'on puisse discuter d'un nouveau budget.
Sébastien Lecornu avait promis de ne pas utiliser le 49.3. Est-ce qu'il faut qu'il en reste là? Certains disent, mais au moins ça permettrait qu'il y ait un budget. Non, pas question.
Pas question.
Vous redoutez ça, vous vous demandez si ça revient là?
Je sens bien, je vois bien la petite musique revenir de ceux qui, y compris, j'ai vu des députés socialistes qui, après avoir considéré que c'était une grande victoire d'avoir obtenu le renoncement au 49.3, maintenant demandent à ce que le 49.3 revienne. Donc je dis un petit peu de cohérence politique. Mais attendez, moi j'esquive pas la question. Mon objectif, c'est de battre le budget. Mon objectif, c'est de renverser le gouvernement, parce qu'il n'y aura pas d'avenir différent pour notre pays avec la Macronie au pouvoir. Et d'ailleurs, ce qu'on observe avec ce résultat du vote sur le budget, c'est que la Macronie est incapable aujourd'hui d'avoir un budget qui a une cohérence politique. On a besoin d'avoir un budget.
Vous allez donc déposer à nouveau une motion de censure?
Je pense qu'il y aura une motion de censure, oui, mais après je sais pas encore quels sont les outils que va utiliser le gouvernement. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que si le gouvernement essaye de passer en force son budget, que ce soit par 49.3, que ce soit par ordonnance, alors évidemment nous déposerons une motion de censure, puisque c'est le seul outil dont on disposera alors pour empêcher ce budget de voir le jour. Et c'est pour protéger les gens, parce que dans ce budget,
c'est un effort qui repose essentiellement d'ailleurs sur les catégories les plus pauvres. Quand vous voyez que dans ce budget, on en a déjà parlé, il y a la division par deux de la prime de Noël pour les allocataires du RSA, des gens qui vivent sous le seuil de pauvreté et à qui on va dire c'est à vous de faire des efforts, mais que dans le même temps on refuse une taxe Zuckman pour que les plus riches payent 2% d'impôts, c'est pas 40% d'impôts.
De toute façon, tout ça est retombé aux oubliettes, hein, puisque bah oui, mais ça n'a pas été voté.
C'est justement le problème, parce que si vous mettez pas davantage à contribution les plus riches, les multinationales, les grandes entreprises, bah à la fin, si vous voulez équilibrer votre budget, vous faites payer les gens. Et moi, je suis pas d'accord pour faire payer les gens.
Est-ce que vous préféreriez que Emmanuel Macron se résolve à dissoudre?
Ben moi, ce que je préférais, c'est qu'Emmanuel Macron se résolve à partir. Parce que je pense que c'est lui qui est responsable de cette situation et que évidemment tout le monde l'a vu, la dissolution, on l'a déjà expérimenté l'année dernière, elle n'a pas produit une situation qui permet au pays de choisir clairement le cap qu'il a envie de prendre. Et donc je pense que pour ça, on a besoin du départ du président de la République et d'une élection présidentielle anticipée. On gagnerait du temps, parce que sinon ce qui va se passer, vous le savez comme moi, c'est que pendant 16 mois jusqu'à la prochaine élection présidentielle, en fait, on va rien faire.
Tout va être sur pause.
Et on va perdre du temps. Et on va perdre du temps alors qu'on n'a pas de temps à perdre. Parce que quand vous regardez l'évolution du monde depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir en 2017, on a déjà perdu beaucoup.
J'allais y venir à l'évolution du monde. François Hollande parle d'un danger majeur, d'un risque de guerre. Le chef d'état-major des armées a dit qu'il fallait qu'en France, on aille vers l'idée d'accepter de perdre ses enfants. Et Emmanuel Macron s'apprête à annoncer le retour d'un service militaire volontaire, mais le plus large possible. Comment vous réagissez à tout ça ?
D'abord, les propos du chef d'état-major des armées, je pense qu'ils sont très malvenus. C'est pas à lui de faire des déclarations, et en plus, ces déclarations sont très maladroites. Moi, pardon, mais je considère que notre objectif aujourd'hui, c'est pas de se préparer à perdre nos enfants. Je pense que notre objectif, ça doit être plutôt d'œuvrer et de créer les conditions de la paix, et d'une paix qui soit durable. Et je ne crois pas, et je n'ai jamais cru à l'adage que pour préparer la paix, il fallait préparer la guerre.
Mais
pour
préparer la paix, il faut préparer la paix. Ce qu'il dit, évidemment, c'est que si nos adversaires sentent que nous ne sommes pas prêts à effectivement avoir cette grandeur d'âme, comme il dit, alors il pourrait être tenté, en effet, de nous envahir.
Et vous avez l'impression que les propos du chef d'état-major des armées aident dans le pays à une prise de conscience, à un sérieux? Moi, j'ai l'impression plutôt que ça a contribué à semer une forme de
pour
panique.
Vous, c'est l'inverse.
Donc oui, je pense que c'est tout à fait contre-productif, les propos qu'il a tenus. Moi, je souhaiterais plutôt que la France soit à l'avant-garde, parce qu'elle n'est pas, malheureusement, des négociations de paix qui s'ouvrent entre l'Ukraine et la Russie, ou qui mettent du temps à s'ouvrir, soyons
réalistes. Vous les trouvez satisfaisantes en ce moment,
Non, tout le monde voit bien que c'est des négociations qui se préparent pour l'instant entre Vladimir Poutine et Donald Trump, sans les Ukrainiens autour de la table des négociations, et dans lequel la France, l'Union européenne, qui a des intérêts à défendre dans cette histoire. Je veux dire, c'est la question de sa propre sécurité, ce sont des intérêts qu'on a à défendre dans cette histoire. On n'est même pas à la table des négociations pour pouvoir les faire valoir. Ces garanties de sécurité, elles nous impliquent, elles nous concernent. Le fait que les Ukrainiens soient à la table des négociations, ça nous concerne, ça nous intéresse.
Et c'est à cela qu'on devrait mobiliser notre énergie. Une dernière question, Emmanuel Bompard. Vous l'avez vu, l'Université Lyon 2, un professeur d'histoire, qui a dressé une liste, je cite, de génocidaire à boycotter quoi qu'il arrive. La direction d'établissement s'est dit consternée, condamne les propos de l'enseignant. Est-ce que vous les condamnez également ?
Mais c'est pas des propos, c'est une, si j'ai bien compris, une publication sur les réseaux sociaux dans lequel il a indiqué une série de personnes dont il considère que les positions sont des positions de soutien au gouvernement. Et alors, on n'a pas le droit de dire qu'il y a des gens dont on considère que les positions qu'ils défendent dans les médias.
Donc pour vous, il n'y a pas de problème avec ça.
On n'a pas envie de les écouter. Moi, j'aurais pas fait de liste, personnellement, mais je suis quand même un peu stupéfait. On a quand même le droit de dire que quand des gens défendent un gouvernement, qui est le gouvernement de Monsieur Netanyahou, qui est accusé, je veux le dire quand même, de génocide, après avoir dit pendant des mois et des mois.
Non, il est pas accusé de génocide. Enfin bon, on va pas rouvrir encore
ce débat.
Il est accusé par certains de génocide, mais il n'y a pas une unanimité à considérer que c'est génocide. Mais on peut rouvrir cette question. En tout cas, quand on est professeur d'histoire, aujourd'hui, pour vous, on peut faire cette liste.
Mais madame.
Il y a pas de problème.
Vous pouvez nuancer les choses si vous voulez, mais il y a bien un arrêté de la Cour internationale de justice qui date
il y a un an et demi
qui parle d'un risque de génocide.
Voilà, c'est bien
et
ce
il y a
que
bien des mandats, madame, il y a bien des mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale qui ont été. Vous savez ce que c'est des mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre ou crimes contre l'humanité.
Parfaitement. Je dis juste qu'il n'est pas.
Et madame,
quand
depuis
risque de génocide,
madame,
ne pas dire
depuis
qu'on est
des mois et des mois sur tous les médias en France. Excusez-moi de vous le dire quand même.
Est-ce que ça veut dire que ces gens-là sont des génocidaires?
Attendez.
Est-ce que ça veut dire que pour vous,
Par exemple, l'animateur Arthur est un génocidaire.
Je ne dirais pas ça, mais je dirais par contre qu'ils ont pris des positions politiques de soutien à un gouvernement qui est un gouvernement qui commet un génocide. Donc je ne suis pas d'accord avec le fait que ces gens-là. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça, puisque moi je ne considère pas que les gens qui soutiennent un gouvernement qui commet des crimes contre l'humanité le sont eux-mêmes responsables de ces crimes-là. Mais par contre, je pense qu'on a le droit de considérer que leurs positions sont des positions qui sont des positions extrêmement problématiques. D'ailleurs, je vais vous faire remarquer que pendant des mois et des mois, on nous a dit, à partir du moment où il y aura la libération des otages, la guerre s'arrêtera. Et ce que j'observe, c'est que malheureusement, trop tardivement, il y a eu la libération des otages et qu'on a encore des Palestiniens innocents qui meurent aujourd'hui. Et je trouve qu'on devrait davantage parler de ça plutôt que des tweets des uns et des autres sur les réseaux
sociaux. Et vous l'avez dit ce matin, en tout cas. Merci, Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise. Il est 8h48 sur RMC BFM TV. Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
8h50, face à Canteloup.
Tous les matins, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Ce matin, mon invité est Emmanuel Bompard. Jean-Luc Mélenchon, vous vouliez réagir?
Je vous ai entendu, Mme Malherbe, avec Emmanuel Bompard. C'est quoi cette façon-là de poser des questions?
C'est-à-dire, en fait, je suis journaliste, donc je pose des questions, oui.
Ah, c'est ça, journaliste. Ah. Vous avez donc le sésame pour procéder à des interrogatoires, hein? Où était Redouane Bouguerraba, vous l'avez dit à mon Bompard. Il va pas vous le dire, parce que Bompard, c'est pas une balance. Et puis ça peut pas être lui, hein, Bouguerraba. Un Bompard, il rit jamais, on le sait. Alors, je connaissais la police politique, donc il y a désormais chez vous, Madame de Malherbe, la police de la presse. Heureusement que Manuel est imprenable, hein, au jeu du ni oui ni oui.
Enfin, je crois que ça s'appelle le ni oui ni non.
Non, c'est le ni oui ni oui. Ah. C'est moi, je le sais, c'est moi qui l'ai formé. Hein. Il est imprenable. Mais allez-y, donnez-vous encore quoi, hein, essayez. Si ça vous amuse d'interroger.
On la retente. Rebonjour Manuel Bompard.
Non, écoutez, Madame de Malherbe, on ne peut pas dire bonjour comme ça de façon inconsidérée, vous le savez très bien. N'oubliez pas qu'en disant bonjour, vous excluez tous les travailleurs de nuit qui ne passent pas forcément un bonjour. Donc, à la France Insoumise, nous n'oublions pas ce type de gens.
D'accord. Faisons plus simple alors. Vous êtes un homme, Manuel Bompard?
Écoutez, non, mais Madame de Malherbe, Madame, vous serez d'accord avec moi que l'époque a changé, Madame. Vous savez aussi bien que moi, aujourd'hui, on ne classe plus les gens par genre, homme, femme ou autre. Hein. Tout ça, c'est stigmatisant, c'est totalement dépassé de nos jours, Madame.
On peut dire qu'on est en automne.
Madame, en automne, je veux bien essayer de jouer à votre jeu sympathique, mais faut arrêter, Madame, de vouloir tout mettre dans des cas. C'est pas parce que les feuilles tombent en automne qu'on est forcément en automne, excusez-moi. Quand il y a un ouragan chez nos concitoyens d'outre-mer et que c'est en avril, pardonnez-moi, mais les feuilles tombent aussi, on n'est pas pour autant en automne, Madame, pardon, excusez-moi. Vous pouvez balayer ça avec un revers de la main, vous faites ce que vous voulez, mais moi je ne suis pas, moi.
Vous êtes imprenable, c'est sûr. Tout de suite, l'actualité avec Thibaut Texer.
Oui, bonjour à Pauline, ici Thibaut Texer, le seul journal dont la chaleur de la voix peut dégivrer votre pare-brise. Alors que le gouvernement va envoyer à tous les Français un manuel de survie en cas de conflit armé, le Rassemblement National, lui, de son côté, envisage d'envoyer à tous ses adhérents un guide intitulé « Comment bien vivre avec nos amis russes ?»
Alors justement, d'après le général Mandon, la France devrait être prête, je cite, à accepter de perdre ses enfants. Emmanuel Macron est avec nous, bonjour. Vous avez soutenu le général Mandon?
Oui, écoutez, bonjour. Écoutez, le général Mandon a eu raison. De toute façon, les enfants d'aujourd'hui, nos enfants français, on le sait, sont déjà perdus. Hein, on le sait. Ils deviennent complètement cons à cause des écrans. Hein. Ils ont du mal à se concentrer plus de 20 secondes. Ils savent à peine lire, écrire, compter. Qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse à part les envoyer à l'armée?
Non, mais on n'est pas préparé quand même à cet effort de guerre.
Non, mais attendez, Madame Valère, mais qu'est-ce que c'est que ce pays?
Alors, la retraite, bosser plus longtemps, vous ne voulez pas. Commencer l'école avant 9h, on ne veut pas. Mourir pour sauver le pays, on ne veut pas.
Vous savez quoi? On va sortir une nouvelle version du guide de survie.
Ah oui. Hein,
et dedans, il y aura que des conseils réservés aux gros lâches. Hein. On expliquera comment battre en retraite face à l'ennemi, bien sûr, sans avoir trop à courir. Hein, et aussi comment confectionner facilement un drapeau blanc avec ses draps. Hein. Et puis, bien sûr, comment dire russe en russe la phrase « Je me rends, je me rends, je suis une lavette. Voilà. Vous voyez, je sais m'adapter.
Je me rends, je suis une lavette. Oui, on s'adapte. Merci, monsieur Macron. On a beaucoup débattu de la phrase du général Mandon, donc sur la perte de nos enfants. Vincent Moscato tenait absolument à nous apporter son éclairage sur le sujet.
RMC, le super Moscato Show.
Mando, le général Mando. Mando, chef d'état-major des armées, le gars, tu vois, c'est juste au-dessus du caporal, tu vois. Le boss, il est invité au congrès maire de France, il arrive, tu vois, le gars propre sur lui, tu vois, avec le bon costume, là, le comment t'appelles ça, le l'uniforme, là, avec, voilà. C'est tout dans sa collection multicolore de pins, là, le chevalier de la Légion d'honneur, de chevalier de l'ordre de Malte, chevalier Zodiac, chevalier La Spalette, ça. 5 étoiles, le mec, sur booking.com, 5 étoiles.
Excusez-moi, Vincent, je crois que c'est pas tout à fait les mêmes étoiles.
Non, mais je sais pas, j'ai Apolline. Oh, j'ai pas fait l'armée, moi. Ils m'ont réformé parce qu'il n'y avait pas d'uniforme à ma taille. J'étais trop gaulé, gros. Et le seul truc qui m'allait, c'était un parachute.
Revenons au général Mandon, si vous le voulez bien, Vincent.
Bon, alors, Mandon, le gosse, donc il arrive au micro, tu vois, tout calme, le mec tranquille, tu vois, zen, tu vois. Il dit 3-4 ans, dans 3-4 ans, il y a guerre avec les Ruskov et on va perdre nos enfants. Oh putain, qu'est-ce qu'il avait pas dit, le gosse? Le gosse, tout le monde lui est tombé dessus, tout propre qu'il était, tu vois, il a pris des sauts de merde dans la gueule, toutes les rédactions surchauffent, les jeunes journalistes sur les plateaux, que des Miss France, tu vois, ils tombent des nus, les mecs ils découvraient qu'à la guerre tu peux mourir, quoi, que c'est pas un jeu vidéo, que tu joues pas avec Playmobil. Je vais te dire mon analyse, Apolline. Ouais, Marshall, je vais te dire quoi, la guerre la guerre c'est comme le rugby, ça picote un peu, si tu rentres impeccable sans rien de casser, c'est que t'as vraiment pas été sur le terrain.
Merci Nicolas Cantu, à demain.